Bonsoir à tous. La réforme des retraites sera présentée demain par la Première Ministre, mais on sait déjà que les syndicats vont se mobiliser pour s'y opposer. L'INSEE lance une nouvelle campagne de recensement. Il ne s'agit pas seulement de compter les habitants. Exemple à Mauléon. Entre l'agriculture qui nourrit et celle qui produit de l'énergie, y a-t-il conflit d'intérêts, concurrence ou complémentarité? Début de réponse ce mercredi lors d'un débat à Thouars. À Courlay, le maire a présenté ses vœux samedi matin, l'occasion d'évoquer les projets de la commune. Enfin, en sport, on reviendra notamment sur le cross disputé dans des conditions difficiles hier à Cerisay.
Et la météo, du gris, de l'humidité pour demain mardi.
Un trafic de stupes a été démantelé à Niort, annonce la police nationale. Cet après-midi, la brigade des stupes et la BAC ont mis la main sur 3,8 kg de cannabis, 191 grammes d'héroïne, 32 grammes de cocaïne et plus de 10 600 euros en liquide. Deux des trois dealers seront jugés en mars. Le troisième a obtenu un délai pour préparer sa défense. Un patient pris en charge à l'unité de psychiatrie de l'hôpital Nord de Sèvres, situé à Thouars, est parvenu à s'en extraire, relate le courrier de l'Ouest. Il a cassé la vitre d'une fenêtre pourtant adapté. L'homme est ensuite passé par cette ouverture située au premier étage pour rejoindre le parking de l'établissement. Là, muni d'une barre métallique, il a dégradé plusieurs voitures en stationnement. Ce patient a finalement pu être maîtrisé. Il n'y a pas eu de blessé. Les policiers ont été appelés afin de prêter assistance au personnel et les aider à remettre l'individu dans sa cellule.
Elisabeth Borne dévoilera ce mardi la réforme des retraites.
Selon les derniers éléments d'information, l'âge légal de départ à la retraite, qui est aujourd'hui à 62 ans, serait décalé à 63 ans en 2020. 27 puis 64 ans à l'horizon 2030. En contrepartie, l'exécutif semble vouloir fixer un minimum retraite de 1 200 euros. Les organisations syndicales sont d'ores et déjà vent debout contre cette réforme. Pour la CFDT, pas question de faire reculer l'âge de départ. Olivier Godichaud, secrétaire départemental CFDT.
C'est un non et il n'y aura pas de retour en arrière sur ça. On ne peut pas accepter que le gouvernement propose des choses qui vont être pénalisantes pour les plus bas salaires. C'est les personnes les plus fragiles qui vont être touchées, en fait, les plus bas salaires. C'est les femmes qui ont sur leur vie professionnelle eu des enfants et qui ont perdu du coup un peu de temps par rapport au calcul des retraites. Ça va impacter vraiment tous ces gens-là. Et ça, c'est pas acceptable pour la CFDT.
La CGT ne veut pas non plus entendre parler d'un recul de l'âge de départ à la retraite et propose de son côté un départ à 60 ans. David Baudin, secrétaire départemental de la CGT.
Alors la CGT, elle propose un départ à 60 ans, après 37 annuités et demie de cotisation, voilà, mais une retraite pleine à 60 ans. Voilà, donc ça veut dire qu'on pourrait partir un peu avant si on a les cotisations pleines, et puis à 60 ans, à taux plein. C'est pas du tout ce qui est proposé par le gouvernement, puisque le gouvernement, en plus de nous proposer un départ à 64 ou 65 ans, il nous propose une accélération de la réforme Touraine. La réforme Touraine, elle venait augmenter le nombre d'annuités pour obtenir une retraite complète. Faire miroiter qu'il y aurait des gens qui toucheraient les 1200 euros minimum de retraite avec une retraite complète, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on combatte aussi, parce que clairement, il faudra 43 annuités de cotisation pour avoir une retraite complète, et donc il y a énormément de monde qui va se retrouver en décote, dont les femmes, notamment, et les plus précaires.
Pour la CGT, ce sont les exonérations de cotisations qui affaiblissent le système par répartition des exonérations qui profitent au capital, mais pas aux salariés, souligne David Baudin. La mobilisation contre la réforme des retraites ne fait pas de doute, même si les modalités restent à déterminer. En bref, la rectrice de l'Académie de Poitiers était à Niort. Cet après-midi, elle s'est rendue au lycée Paul Guérin pour une visite sur le thème de l'orientation et de la poursuite d'études après le bac. Bénédicte Robert s'est ensuite entretenue avec Véronique Goudjari, la nouvelle DAZN du département des Deux-Sèvres.
Une partie de la population du Grand Mauléon sera recensée à compter du 19 janvier.
3 800 foyers exactement vont faire l'objet de cette opération coordonnée par l'INSEE. Cet acte civique obligatoire et anonyme permet notamment aux communes de penser aux projets à venir. Mauléon, qui connaît ces dernières années une hausse moyenne de sa population de 0,3%, ce qui en fait aujourd'hui le cinquième territoire du département. Le maire Pierre-Yves Marolleau au micro de Patrice Bémanangy.
Il est important pour voir comment notre population évolue. On a des chiffres tous les ans, mais qui sont des chiffres, je vais dire, qui ne sont pas vérifiés complètement. On doit approcher pas loin d'être des 9000 habitants. C'est important aussi, au-delà du seul chiffre de la population, puisqu'il y a des questions qui concernent aussi les logements. On le passera dans le prochain budget, mais je crois qu'on doit approcher les 300 000 euros liés aux taxes qu'on recueille du fait des ventes et des achats des logements sur Mauléon, ce qui veut bien dire qu'il y a une attractivité qui est sans doute liée en grande partie à notre proximité de la Deux-Fois-Deux-Voies, notre proximité du Choletais, parce qu'on voit quand même maintenant des habitants de Cholet venir acheter. Je vois dans le nouveau quartier de vie situé route des Échaubrognes, les deux clochers, on a des acheteurs, et on a même des acheteurs aussi de maisons anciennes qui arrivent plutôt de la région choletaise.
Le recensement sur le Grand Mauléon aura lieu du 19 janvier au 18 février, tout comme à Cerizay d'ailleurs.
L'info Poitiers-Vaud sur colline 18h08.
Entre l'agriculture qui nourrit l'homme et les animaux et celle qui produit de l'énergie comme le biogaz par exemple, y a-t-il conflit d'intérêts, concurrence ou complémentarité? À l'initiative de l'Université citoyenne de Thouars, Grégory Vrignot, conseiller agronome, va lancer le débat avec deux agriculteurs ce mercredi 11 janvier. À Thouars, il en esquisse les enjeux au micro-colline de Dominique Hérault.
Au niveau des sols, est-ce que ça se concurrence? Est-ce qu'on a assez de surface de sol pour faire les deux objectifs? Ma réponse à cette question est oui, puisque en fait, quand on a une succession de cultures, c'est difficile de faire systématiquement que de l'alimentaire, parce qu'on va avoir des problématiques de mauvaises herbes, de maladies. Donc il faut faire des rotations des cultures. Et quand on fait des rotations des cultures, on aime bien avoir des récoltes en filet, où c'est pas l'humain qui va le manger directement, mais c'est la vache, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que la quantité de viande qu'on mange, notamment, on va devoir baisser, parce que transformer du végétal en kilos de viande et ensuite le manger, ça consomme de la surface. Donc on est bien dans une logique un petit peu de manger un peu moins de viande, donc de dégager des surfaces qui étaient destinées à l'alimentaire. Donc on pourrait faire plus de grains pour manger directement nous, humains, mais il y a des moments où on a besoin de faire des récoltes de plantes entières pour pas être embêté par les mauvaises herbes par exemple. Et c'est là que certaines de ces plantes peuvent avoir un intérêt, si on ne peut pas les manger directement, on ne va pas manger un brin d'herbe ou un brin de luzerne, de les mettre par exemple dans un méthaniseur qui va faire de l'énergie, d'une part, et qui va permettre par son résidu de fertiliser la culture suivante d'autre part.
Le dosage entre l'agriculture alimentaire et l'agriculture énergie est un exercice d'équilibriste au plan national et international. Avec une constante, l'agriculteur, lui, doit veiller à la pérennité de son exploitation. Grégory Vrignot.
Le dosage entre la production alimentaire et énergétique, où cet équilibre est peut-être un peu difficile à trouver. Aujourd'hui, le marché alimentaire est très fluctuant. Certes, on a des prix de céréales très élevés en ce moment, mais si on recule, le prix du litre de lait, par exemple, ou du kilo de viande était quand même très bas, très fluctuant d'une année sur l'autre. Donc pour se projeter pour une exploitation agricole, c'est difficile si on n'a pas un revenu qui est stable. Le marché de l'énergie, comme le biogaz, ce sont des contrats sur 15 ans, donc ça donne une lisibilité sur le prix, avec une garantie. Et donc certains se sont dit, plutôt que de prendre beaucoup de risques avec l'alimentaire, je vais un petit peu plus sur l'énergie. Aujourd'hui, c'est un peu différent, donc ça s'équilibre en partie. Mais il pouvait avoir ce risque de dérive à certains moments.
Et quoi qu'il en soit, la tendance est au regroupement d'agriculteurs. Certains auront modérément apprécié l'amendement que la députée de Sèvrienne, Delphine Bateau, a fait voter pour interdire l'arrosage des cultures énergétiques. L'Université citoyenne de Thouars lance le débat afin de permettre de mieux comprendre ce duel entre alimentaire et énergie dans le contexte thouarsais, notamment un débat ouvert ce mercredi à partir de 20h30 à la station T. L'entrée est gratuite. En préparation des pistes cyclables et avant la rénovation des places Lavaux-Dunkerque qui perdront une partie de leur stationnement, la ville de Thouars entreprend la réalisation de plusieurs parkings pour compenser. C'est le cas dans la rue Camille Pelletan avec la création récente des 36 places au cabinet de radiologie et autant près de la résidence du Guesclin dont le chantier va être lancé après les fouilles. Dans la même perspective, en bordure de l'avenue Émile Zola, le parking situé près du stade municipal va être agrandi pour accueillir 46 places, une borne électrique, 8 arceaux pour vélo et une dizaine d'arbres. Les travaux vont débuter par la déconstruction d'une maison, ce qui interdit tout accès au stade à compter de cette semaine. Le nouveau parking sera accessible à la fin mars.
À Courlay, le maire a présenté ses vœux samedi matin.
Il n'y avait plus eu de cérémonie depuis l'apparition du Covid. André Guillermy qui avait donc invité les forces vives de la commune pour un moment convivial. L'occasion aussi de faire un point sur les projets de la commune. Le maire de Courlay, au micro de Boris Blais.
Nous avions la volonté de rénover un petit peu le centre du bourg et il y a quelques projets là qui y contribuent, notamment l'aménagement d'une MAM, maison d'assistante maternelle, la rénovation du restaurant Le Courly avec un porteur de projet qui devrait s'installer en cours d'année. Il y a un lotissement, tous nos lotissements sont complets là aujourd'hui, donc il y a un projet de lotissement qui verra 28 lots aménagés durant l'année également. Et puis, pour faire face à toute cette crise énergétique, on a pas mal de projets d'aménagement nouveaux, que ce soit sur la voirie avec des éclairages publics améliorés, et puis également dans nos salles, dans nos équipements. Concernant le Courly, c'est un restaurant qui fonctionnait très bien, et donc les gérants avaient pris leur retraite, et depuis ils n'avaient plus cette activité dans le cœur du bourg. Et il y a une demande, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent localement, des artisans notamment, et qui recherchent tous les midis un point pour se restaurer. Donc effectivement, ça contribue largement à l'animation du bourg de Courlay.
Et le Courly devrait être prêt cet été, alors que la MAM, elle, sera opérationnelle en avril.
L'actualité sportive, Fabien.
En football, les Chamois-Niortais accueilleront Auxerre le dimanche 22 janvier à 18h30 en 16e de finale de la Coupe de France. Ainsi, on a décidé le tirage au sort effectué hier soir dans la foulée des 32e disputés ce week-end. Jouer une Ligue 1, c'est une récompense pour les joueurs, estime Rui Almeida.
C'est un match que je pense c'est un prime pour le joueur, bien sûr. Prendre une équipe Ligue 1, pour le club c'est intéressant, c'est sûr aussi. Pour nous tous, je pense que pour la ville, toujours intéressant.
Les Chamois qui rejouent dès demain en championnat à Rodez. On en reparlera. Les départementaux de cross se sont disputés dans des conditions difficiles hier. La pluie, le vent, la boue ont compliqué la tâche des athlètes et des organisateurs à Cerizay dans le parc du Puy-Genêt, comme le soulignait le président du SBAC, Pascal Brosseau.
Ça a été la galère, galère pour préparer, mais galère également toute la journée avec des épreuves qui se sont déroulées pour la plupart sous la pluie, donc pas facile à gérer. Puis c'était vraiment, ça a accentué la difficulté du terrain comme on le pressentait, quoi.
La galère aux yeux de Pascal Brosseau, mais bon nombre d'athlètes aiment les conditions difficiles. C'est le cas du bassiste Armand Marolo, premier espoir et troisième du crosslon derrière Jonathan Billot et Mathieu Bazin. Après une semaine de grippe, Armand Marolo n'avait pas les jambes pour espérer mieux.
C'est une première course qui vient lancer le début de la saison de cross. Donc c'est toujours un plaisir de venir courir à domicile à Cerizay. Et c'était, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est un parcours qui était très sélectif, très dur, très gras. Et pour lancer la saison de cross, on commence par le plus dur. Donc voilà, la saison est lancée. Et maintenant, il reste plus qu'à s'entraîner dur et la forme va monter progressivement.
Voilà, propos recueillis par Vincent Nori.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Fin de journée assez calme.
Oui, et ensoleillé avant la tombée de la nuit, mais on ne devrait pas apercevoir le moindre rayon de soleil demain, mardi, journée sous les nuages et avec de l'humidité. Il y a toujours ce vent d'ouest, 50-60 km/h en rafale, 7-8 degrés demain matin, 11-12 degrés demain après-midi.
C'était toute l'info près de chez vous avec Fabien Gazot. Merci Fabien, retour demain matin.
Demain matin à 7h02 précisément. Avec Patrice Bémanangis. Bonne soirée.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.